Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que quand il sonne 11h de lundi à vendredi, nous sommes toujours au rendez-vous avec l'actualité pour faire le décryptage, le débat et l'analyse également sur ces sujets liés à l'actualité au Togo. L'état d'urgence sécuritaire en vigueur depuis 3 ans dans la région des Savanes est de nouveau prorogé. Les députés réunis en plénière hier jeudi ont adopté le projet de loi autorisant la prorogation pour 12 mois à partir du 13 mars. Cette reconduction, la quatrième après celle de septembre 2022, avril 2023 et mars 2024, se justifie par la persistance des menaces sécuritaires dans cette région septentrionale du pays. La nouvelle prorogation permettra ainsi au gouvernement d'adapter la réponse à l'évolution de la menace et de poursuivre les actions déjà engagées dans le sens de la protection des citoyens et des biens, la préservation de l'ordre public et de l'intégrité du territoire national. Je vais aborder le sujet dans cette émission avec mes confrères présents en studio. Avec moi, nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 7 mars 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa sur la mise en onde, Géraud Dakoutia était la mise en ligne, je suis Pascal Lousso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix, nous sommes à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga près de Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dabaon. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio et également mes invités hein, qui sont des analystes, bien sûr, politiques. Ils sont en studio avec moi. Et Fermetako Agbo, bonjour.
Bonjour Pascal Osso, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Moi, je vais bien, avec la grâce de Dieu.
Avec la grâce de Dieu, ça va.
Oui, ça va. Et la semaine, sous sa grâce, c'est bien passé. Et donc, on espère que les jours à venir seront encore meilleurs que ceux que nous avons déjà connus.
Tout à fait. C'est ça aussi notre espérance. Et donc, nous resterons toujours dans cette grâce hein, pour demander cette espérance pour toujours mener notre vie comme cela se doit.
Et bien évidemment. Et
justement, nous demandons toujours cette grâce de Dieu. Gabin Adjarou ne me dira pas le contraire. Gabin, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal FM. Bonjour à mes amis et confrères sur le plateau. Merci de m'avoir invité sur ce prestigieux plateau pour débattre de l'actualité nationale et internationale. Et j'aimerais aussi parler de pour aborder le sujet du civisme, parce que hier j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé au niveau de Nikonakpo et dans l'avant au niveau du lycée français. Et il y a une maison à ce niveau-là. Je n'ai jamais compris comment se fait-il que les gens peuvent déverser des ordures ménagères comme ça dans la rue. Il me semble que c'est dans le Golf 4, si je me trompe pas. C'est Golf 4. Et sincèrement, ça m'a interpellé. Il y a terriblement de choses là-bas, des ordures un peu partout, devant des maisons, et les gens se permettent même de mettre le feu à ces ordures-là la nuit, parce que j'ai posé la question à certains riverains qui On dit que bon, la nuit, les gens viennent mettre le feu à ces ordures-là et puis ça les dérange dans leur concession. Donc, j'interpelle hein, les autorités communales à pouvoir faire diligence, à visiter hein, ce coin de leur commune-là pour interpeller ceux-là qui sont en train de faire de ces désordres hein, à cesser de le faire parce que cela empêche véritablement les autres habitants d'arriver véritablement à mieux vivre dans leur commune.
Vous avez remarqué concrètement la chose où Agnès Conakry.
Dans l'avant du lycée voilà. français, dans l'avant du lycée français, en allant vers l'église presbytérienne, là où déjà l'ANC et le FDR avaient déjà fait la conférence de presse la fois dernière.
D'accord, donc, je comprends.
Voilà, j'invite les agents techniques hein, de la mairie à
le message est passé. Voilà. J'avoue quand même que vous êtes très élégant dans votre accoutrement ce matin. Ah. Vous êtes arboré alors d'un basin bleu foncé. Et avec des designs, et là, et c'est, vous êtes élégant là-dedans.
Ah, merci, il faut dire merci à madame.
Ah, voilà, c'est important. C'est important. Et merci hein, d'avoir répondu à notre invitation, Gabin Adjaro. Kofi Annani, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien par la grâce de Dieu.
Voilà, j'aime bien cette fougue de la jeunesse et qui fait que il y a du punch même d'ailleurs dans dans les propos.
Merci
d'avoir
Pascal.
Répondu à notre
invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour lancer un appel à nos autorités en charge de la sécurité routière parce que moi je fais un constat presque tous les jours qui me donne de la douleur au cœur, c'est lequel ? C'est l'aisance avec laquelle nos concitoyens violent nos feux rouges, nos feux tricolores.
Les feux tricolores ?
Oui, et des fois, au vu et au su des forces de sécurité présentes sur nos routes, je pense qu'il est temps que l'on sévisse réellement contre ces gens-là qui se permettent d'aller à l'encontre de nos lois. On ne peut pas vivre dans un pays où certains se disent, bon voilà, on veut vivre comme on veut, il y a feu tricolore ou pas, on s'en fout, on va circuler comme on veut, il y a une loi qui dit telle ou pas, on va vivre comme on veut. Ce n'est pas bien. Si nous ne respectons pas les lois que nous nous sommes données, nous n'avons rien à reprocher aux gouvernants. Il nous appartient d'abord de nous comporter en des citoyens modèles afin de pouvoir avoir le droit moral de dire quoi que ce soit à nos dirigeants. Merci.
Merci, le message est passé. Kofi Annani, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'autre qui a répondu aussi à notre invitation, c'est Cyril Sablasso. Cyril, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les confrères du plateau Club de la Presse. Ce fut toujours un plaisir de partager ce plateau. C'est un merveilleux moment avec les confrères. Pour un peu attirer aussi l'attention de l'opinion sur certains faits, c'est une émission d'éveil de conscience. Comme vient de le dire mon confrère et mon ami Annani, c'est vrai hein, que les responsables de la police nationale ou de la sécurité routière sont en train d'abattre un bon boulot. Mais le fait de violer les feux rouges, je crois que c'est un non-respect du code de la route. Et je crois même que déjà, il y a une sensibilisation sur le permis de conduire catégorie A qui concerne les motos, qui est déjà démarré. Je crois que nous qui sommes ici, nous qui sommes les journalistes, il faudrait qu'on arrive à sensibiliser les populations. Nous devons nous sensibiliser nous-mêmes, sensibiliser les populations, les inviter surtout à respecter le code de la route et aussi à faire le permis de conduire catégorie A qui D'accord. concerne les motos.
D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous commençons cette émission avec ce sujet que j'abordais déjà dans mes mots introductifs. C'est bien l'état d'urgence sécuritaire qui a été prolongé dans la région des Savanes. On sait que pour une quatrième fois consécutive, c'est cet état d'urgence sécuritaire prolongé, puisqu'on se souvient, c'est en septembre 2022 que cela a eu lieu pour la première fois, l'état d'urgence sécuritaire, en avril 2023 et mars 2024. Et maintenant, nous sommes en mars, et c'est en mars 2025. Alors, l'état d'urgence est prolongé. Gabin, on dirait que déjà, puisque la menace sécuritaire est toujours de mise, alors dans la région des savanes. Et c'est pour cela que le gouvernement, enfin, l'Assemblée nationale a justement adopté alors cet état d'urgence sécuritaire hier.
Ah oui, la menace est toujours de mise, hein, parce que cette affaire de terrorisme-là, ça ne faiblit jamais. Et à un moment donné, ce sont des gens qui prennent du recul pour pouvoir rebondir après. Donc à un moment donné, il faut être éveillé à chaque moment. Et l'État, hein, même si les militaires sont sur le terrain, ils sont en train de cadrer le terrain. Et on peut dire que bon, il y a des efforts qui ont été faits. Même, hein, même si on remarque plusieurs attaques, hein, les dernières fois, ça fait pratiquement 6 à 8 mois qu'on en a plus entendu parler. Ça veut dire que les militaires sont en train de faire un travail de fond et le gouvernement les accompagne aussi, et pratiquement toute la population les accompagne, parce que même, hein, les simples pensées, les prières, à chaque fois qu'on dit qu'il y a attaque ou bien que nos militaires ont perdu la vie sur le champ de bataille, on sait les mots qui animent la population togolaise, c'est parce que ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont des cousins, cousines et autres là qui se battent, hein, pour sauvegarder l'intégrité de notre nation. Donc à un moment donné, il faut toujours être éveillé pour que cette lutte-là puisse aboutir. Et côté légal, le Parlement est en train quand même d'assurer cela pour qu'on sache que véritablement, il y a encore, hein, cette insécurité-là qui gangrène la région des savanes. Même si on est en train de faire des efforts pour repousser les malfaiteurs, il faut être éveillé pour annihiler le mal-là à 100%, même si on arrive à le faire à 80%, 90%, 99%. Tant que ce n'est pas totalement annihilé, il faut toujours rester éveillé. Je profite, hein, juste pour envoyer des fleurs à ces militaires-là qui sont au front, et aussi mes mots d'encouragement au gouvernement, et aussi les interpeller à communiquer beaucoup plus avec la population pour que la population soit bien éveillée. Je sais qu'il y a tellement de choses qui ont été faites dans le savane, plus précisément à Dapaan, où ceux-là même qui avaient déserté leur concession à cause de ces attaques terroristes-là ont pu être recasés quelque part. Les enfants ont recommencé par aller à l'école. Donc ça veut dire que l'État a fait d'énormes prouesses à ce niveau-là. Maintenant, il faut continuer par sensibiliser la population, puisque la population constitue les yeux et les oreilles des forces de l'ordre et des renseignements. Donc il faut sensibiliser beaucoup plus la population, plus que la population soit bien aguerrie à apporter son soutien et à informer aussi les forces de l'ordre et le gouvernement au moment opportun.
D'accord. Alors, Firmin, cette lutte, ça doit être une lutte commune où il faut l'implication de la population, parce que les terroristes des fois se basent même d'ailleurs sur cette population et en prenant même surtout l'état de pauvreté sur des fois alors de ces populations pour agir, qui constitue même d'ailleurs un terreau fertile alors pour ces terroristes. Finalement, est-ce que vous avez l'impression que la population est impliquée aussi telle que cela se doit?
Oui, moi c'est à deux niveaux. La population est impliquée quand on lui explique. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment où on sait qu'il y a eu assez de sensibilisation, et il y a eu assez de discours qui permettent ou qui ont permis à un moment donné à la population de comprendre. C'est là où la population s'implique. Quand on lui explique un certain nombre de choses par rapport à leur vie, par rapport au nouvel ordre mondial, par rapport à la nouvelle donne, la population se dit, ah, ce qu'on est en train de dire, c'est pour notre bien. Et à ce niveau particulièrement, lorsqu'on va lui parler d'état d'urgence, on va dire par exemple, pour notre bien à tous, pour notre vie, pour pouvoir assurer l'intégrité du territoire, nous ne sortons pas à 18h. À 19h, tout le monde doit être chez lui. À 5h du matin, tout le monde doit faire ceci. Vous ne devez plus crier la nuit, vous ne devez plus aller dans les boîtes de nuit à tel moment, à telle période. Donc, à ce niveau, la population accepte facilement. Donc, quand on renouvelle l'état d'urgence au niveau de l'Assemblée nationale, la population n'a pas trop de problèmes. Peut-être au début, c'était un peu difficile, mais avec le temps, les gens essaient de comprendre. L'autre chose où la population peut être encore plus impliquée, c'est au niveau de la précarité. On sait que l'État a déjà depuis un bon moment investi un certain nombre de milliards dans cette zone. Et quand la population voir que son niveau de vie est en train de changer, les enfants peuvent aller facilement à l'école, au niveau du panier de l'aménager, c'est plus trop menacé et tout ça, et qu'il y a de nouvelles infrastructures qui poussent dans cette zone-là, la population est impliquée, et donc je pense que tout peut aller pour le mieux. Mais du moment où il y a ces deux aspects qui disparaissent ou qui n'apparaissent même pas, ça va être difficile. C'est bien, c'est mon troisième élément, c'est bien qu'on proroge l'état d'urgence. comme Gabin Adjaro l'a dit tout à l'heure, le terrorisme, ce n'est pas encore la fin. Nous, nous maîtrisons la fin. Vous savez, c'est une donne internationale. Je sais, il y a des gens qui tirent les ficelles de l'autre côté, c'est-à-dire à l'international. Le jour où ils décideront de la fin de ce mal, ça va disparaître. Mais pour le moment, on a besoin de ce coup de com'. L'état d'urgence, c'est un coup de com'. Hein. C'est vis-à-vis aussi des terroristes pour leur dire « Ah, nous sommes toujours éveillés. Nos populations sont avec nous. Quoi que vous puissiez penser, quoi que vous puissiez ambitionner, nous vous attendons. » C'est un coup de com'. Donc, nous prions juste, c'est le général Yak qui a dit que la sécurité, c'est Dieu. Nous prions juste que Dieu nous aide à vaincre ce mal, que Dieu donne assez de force et d'énergie et assez d'engagement en effort de défense de sécurité qui sont sur les lieux.
Kofi, le Togo fait ses efforts pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, et puisque le Togo n'est pas le seul à être sous la menace alors du terrorisme, et finalement, comment vous appréciez cet effort alors du Togo?
Je pense que le gouvernement fait du bon travail depuis que cette situation a commencé. Et au jour, on voit que des efforts sont fournis pour mettre un terme totalement à cette menace sécuritaire qu'est le terrorisme. Mais vous savez, l'état d'urgence, c'est quoi? C'est en fait une situation qui permet aux forces de défense et de sécurité de pouvoir mieux cadrer la situation, de pouvoir mieux la gérer. Lorsque nous avions eu le Covid, l'état d'urgence sanitaire que nous avions eu, ça a servi au corps médical, ça a servi au gouvernement de pouvoir mieux gérer la situation.
Et de pouvoir contenir justement la situation.
Voilà. Et c'est la même chose au niveau du terrorisme. Mais le problème, c'est que l'état ou les responsables que nous avons aujourd'hui, ils sont en train de faire du bon boulot, mais le problème est qu'on ne sensibilise pas suffisamment la population pour qu'elle puisse comprendre le bien fondé de l'état d'urgence. Parce que si vous faites quelque chose pour quelqu'un et que vous amenez la personne à comprendre ce que vous faites pour cette personne-là, la personne se donne totalement à vous pour vous aider à mener à bien votre mission. Cette situation, ce sont les populations qui en sont les premières victimes. Ce sont elles qui souffrent premièrement. C'est vrai qu'au niveau des forces de l'ordre, des forces de défense et de sécurité, nous avons aussi des pertes énormes, il faut le dire. Il y en a aujourd'hui qui sont devenus des handicapés. Il y en a aujourd'hui qui ont perdu leurs parents, leurs proches à cause de ces situations-là. Mais nous demandons au gouvernement de faire plus d'efforts, d'amener la population à comprendre pourquoi il faut encore proroger l'état d'urgence, pourquoi il faut tel ou tel. Et je pense que ça va encore plus nous aider à pouvoir mettre fin à ce fléau-là. Voilà.
D'accord. Cyril, est-ce que vous avez l'impression que l'état d'urgence, tel que cela a été reconduit pour une quatrième fois, la population à la base comprend concrètement l'essentiel sur l'état d'urgence?
Non, je crois que le projet de loi qui vient d'être accepté en prorogeant l'état d'urgence, parce que le dernier prend fin le 13 mars prochain et le nouveau va recommencer, le nouveau, comment l'appelle-t-on, le nouvel état d'urgence va commencer à partir du 13 mars prochain. Je crois que il faut aussi une sensibilisation du côté de nos populations. Parce que vous savez, moi, j'ai la chance de travailler un peu dans les savanes, surtout dans les lieux qui sont communément appelés la ligne rouge. Je crois qu'il faut un travail de sensibilisation. Et c'est l'occasion aussi de jeter des fleurs à ces policiers, à ces gendarmes et à ces militaires-là qui ont laissé leurs femmes, les enfants à la maison et aller au front.
C'est vrai que nous qui sommes à Lomé, la chance ne nous est pas donnée en tant que telle de franchir la ligne rouge. Ce que je voudrais dire, je voudrais vous poser comme question, c'est de savoir comment vivent vraiment les populations de là, puisque vous avez eu la chance quand même de franchir la ligne rouge.
Non, c'est très difficile. Parce que quand vous allez dans des localités comme Djakpaga, c'est dans un canton qu'on appelle Poissongui, à disons à 40 km de Dapan, je crois que c'est très difficile parce que...
C'est très difficile, concrètement c'est quoi?
C'est très difficile parce que, ce sont des réfugiés qui sont arrivés, qui ont fui la guerre, il n'y a pas le manger... le déplacement, tout ça là,
l'école, le conflit,
oui, 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 qui ont fui le conflit, les enfants même qui ne vont même pas à l'école, c'est actuellement que l'État même a commencé à construire, hein, des, comment l'appelle-t-on, des écoles pour eux, à créer des marchés. Vous allez aujourd'hui vers Poignon. Vous voyez un peu le, la situation des enseignants. Et là, les enseignants qui étaient aujourd'hui d'Apaon pour aller enseigner à Poignon, plus de 48 km de d'Apaon, et revenir le soir. C'est très difficile. Mais aussi, il faut aussi le dire, les populations aujourd'hui, il y a certaines populations aujourd'hui de la région des savants qui deviennent de plus en plus des collaborateurs de ces terroristes-là.
Ah bon?
Et je crois que cela est causé par quoi? Par la précarité, la pauvreté. Vous pouvez imaginer, il y a certaines personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont préparé des sauces qui sont mises dans des bidons pour les remettre aux terroristes. Il y a des gens qui font des pleins dans leur moto, c'est-à-dire l'essence, le carburant. Et tout cela, c'est destiné aux terroristes. Les gens sont capables aujourd'hui de débourser.
En retour, on leur propose quoi?
C'est l'argent. Je dis, les gens sont aujourd'hui, ces terroristes sont aujourd'hui capables de débourser 1 million, 2 millions pour payer une moto pleine d'essence. C'est l'argent. Donc, je crois qu'il faut, il faut sensibiliser la population. Parce que moi, je le dis, sans qu'on ne sensibilise pas la population sur le terrorisme, sur l'état d'urgence, parce que d'ailleurs même l'état d'urgence n'est même pas respecté. Vous pouvez imaginer, il y a l'état d'urgence, au même moment on vous dit de respecter l'état d'urgence, de respecter les règles qui font partie de cet état d'urgence qui ne sont pas respectées par les populations. On ne peut pas être dans un état d'urgence et faire un mariage colossal ou faire, des deuils colossaux, enterrer les morts d'une manière à ce que ces populations même soient exposées. L'autre fois, il y a les terroristes qui sont venus tirer à 4 km de Jack Baga là, sur certaines personnes qui sont en train de faire des deuils. Okay. Donc je crois que il faut aussi la sensibilisation des populations, et je crois que ça c'est un travail qui doit être fait par nos amis de la société civile, qui doivent aussi accompagner le gouvernement, et les militaires aussi doivent aussi en faire partie, sensibiliser les militaires pour que ces derniers aussi arrivent à sensibiliser les populations. Vous dites que c'est à cause de vous, nous sommes là, l'état d'urgence est pour vous, respectons cet état d'urgence là. Soyez là, à partir de 18h, soyez à la maison. Mais je vous dis, dans certaines localités, jusqu'à 22h, vous allez voir des gens, même si on parle de la ligne rouge, vous allez voir des gens qui sont toujours dehors aux heures interdites. Vous voyez.
Oui, Gabé.
Oui, vous savez, l'être humain a toujours envie de défier les limites. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Et par rapport à la communication, vous savez, le gouvernement a choisi une stratégie de communication assez incomprise par la population, parce que véritablement, au début, on avait voulu que le gouvernement nous donne véritablement des informations autour de ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est vrai que Cyril vient de toucher un point assez important, que la précarité dans cette zone-là, nous savons qu'au Togo, la zone la plus pauvre, touchée par la pauvreté, c'est quand même la zone des savanes. Mais depuis lors, le gouvernement a quand même choisi de faire un travail de fond à ce niveau-là pour équiper quand même les populations et ensuite injecter de l'argent dans l'économie dans cette zone-là. C'est vrai que c'est assez regrettable ce qui s'est passé, parce qu'entre-temps, il y a des populations, certaines personnes qui n'écoutent pas véritablement la sensibilisation, mais le gouvernement choisit, côté communication, de toucher le point névralgique même du problème. C'est-à-dire, ceux-là qui sont concernés directement, on va communiquer avec eux, on va les sensibiliser, on va les faire prendre conscience pour qu'ils sachent réellement que ce qui se passe quelque part, c'est très sérieux et il faut prendre les choses à bras le corps. Donc, à un moment donné, le gouvernement a choisi de sensibiliser ces gens-là qui sont touchés, qui sont concernés directement par le terrorisme, et aussi ne pas inquiéter ceux-là qui ne sont pas touchés. Par exemple, nous, au Sud, on n'est pas très touchés par cette affaire de terrorisme-là. C'est juste quand il y a affrontement, ou bien quand il y a des pertes en vies humaines et autres là au Nord, ou bien à Kpekpakandi et autres là, qu'on sait que véritablement il y a quelque chose qui se passe. Mais je pense que la communication, le Togo a toujours été en première ligne par rapport à la lutte antiterroriste dans les pays du Sahel et un peu partout. On a toujours eu des garnisons togolaises, si je peux le dire ainsi, qui vont pour défendre ces pays-là. Donc, on sait très bien comment les choses se passent. Et nous, on a choisi une stratégie assez particulière pour pouvoir lutter, pour ne pas donner aussi de l'allant à ces gens-là qui font du mal. Parce que ce sont des gens qui, quand ils tuent et que vous en parlez, ça leur donne beaucoup plus d'aile. Et ils se disent, bon, on leur a fait du mal. Donc, le gouvernement ne veut pas faire de la communication gratuite pour ces personnes-là qui sont en train de faire du mal à la population et de toucher le point névralgique du problème, c'est-à-dire les populations qui sont véritablement directement concernées par cette affaire. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu des déplacements. Beaucoup de personnes se sont réfugiées de l'autre côté du Burkina, beaucoup de l'autre côté du Bénin et autres là. Mais il y a eu des points qui sont en train d'être construits, comme vient de le dire Cyril. Il y a des gens qui sont revenus avec leur bétail et tout à la maison. Il y a même des lancements des travaux, des points et autres là dans les savannes actuellement. Donc je pense que le gouvernement a quand même choisi. C'est vrai que cette zone-là, l'erreur du gouvernement, c'est que cette zone-là a été délaissée très longtemps par le gouvernement. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour pouvoir recoller les morceaux actuellement. Bon, les travaux sont en train d'être faits et les populations sont en train d'être rassurées. On va aussi interpeller les populations parce que je sais qu'il y a des gens qui appellent de Dapaon dans cette émission. On va aussi les interpeller à écouter les instructions que leur donnent les gens sur le terrain. Parce que les gens ont cette tendance-là à défier l'autorité. Ce n'est pas à chaque occasion qu'on défie l'autorité. Ce qu'on vous dit, c'est pour votre sécurité, c'est pour votre bien. On sait très bien qu'entre-temps, il y a eu quand même des grenades qui ont été lancées, qui ont tué des enfants qui revenaient malheureusement du cinéma. Depuis lors, il n'y a plus eu ce genre de choses. Ça veut dire que le gouvernement a quand même pris, ou bien les militaires, l'état-major de l'armée a quand même pris les choses à bras le corps. On va encore beaucoup plus sensibiliser les populations pour qu'ils restent dans le cadre défini par le gouvernement et l'autorité sur place.
D'accord, on va continuer la sensibilisation et tel que les uns et les autres l'ont dit, c'est une lutte quand même à nous tous et il est très important quand même que nous nous impliquions totalement alors dans cette lutte pour gagner le pari. Nous allons quitter le sujet, on aborde un autre sujet, c'est le sujet alors du Sénat. Le Sénat, c'est vrai, depuis hier, ce Sénat est devenu concret et la session de droit a eu lieu hier. Cette session de droit, beaucoup de journaux sont revenus sur cette session et le journal Togo Matin qui écrit « Chambre haute du Parlement, le Sénat ouvre sa session de droit avec la présence de la chef du gouvernement ». Autre journal qui s'intéresse bien sûr au sujet, c'est le journal L'Éveil de la Nation. L'Éveil de la Nation titre « 5e République, le Sénat a tenu sa première session de droit » avec les sénateurs bien sûr à la une du journal. Autre journal, c'est L'Union. L'Union qui titre « Première session de droit du premier Sénat hétéroclite historique ». Et c'est ce que écrit bien sûr le journal avec le doyen en âge, hein, ou le doyen d'âge comme on le dit d'habitude, qui a présidé la séance hier. Firmin, alors déjà on parlait alors de ce Sénat depuis, Sénat qui est une institution prévue par la Constitution, et la nouvelle Constitution également, l'ancienne bien sûr et aussi, et aujourd'hui c'est devenu quand même effectif. Et hier, vous avez suivi peut-être la session de droit. Quelle est l'appréciation que vous faites déjà alors de cette première session, la session inaugurale?
Non, j'avoue que je ne l'ai pas suivi, mais je suis venu un peu en retard. Mais j'ai vu un peu les sénateurs, des gens que je ne connaissais pas avant, que je n'avais jamais vu physiquement. Mais pour moi, c'était émouvant. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment intéressant parce que sur le plan institutionnel, le Togo est en train d'évoluer. Vous savez, il y a deux choses que le Togo devrait faire depuis longtemps, depuis les années 90, après la conférence nationale et après la promulgation de la Constitution de 92. On devrait déjà organiser les élections locales. On ne l'a pas fait. On ne les a pas faites, donc il a fallu attendre jusqu'à 2019 pour pouvoir organiser les premières élections locales sous l'ère démocratique. Vous imaginez si on avait lancé les élections ou si on les avait organisées dans les années 90, comment serait sur le plan local aujourd'hui le Togo? La décentralisation aurait apporté beaucoup de choses. Les maires peut-être ne seraient pas en train de tergiverser aujourd'hui sur un certain nombre de choses. Donc sur ce point aussi, on est en retard. Au niveau du Sénat, la Constitution a bien prévu l'article 52 qui parle de la mise en place du Sénat. On aurait mis en place un Sénat, peut-être sur le plan institutionnel, sur le plan législatif, on aurait beaucoup évolué. Vous savez, ce que moi j'apprécie au niveau du Sénat, c'est cette question d'expérience. Quand j'ai vu un peu ceux-là, les nouveaux sénateurs, la plupart, c'est des gens un peu âgés, les gens du troisième âge, les gens qui ont fait leur vie, qui ont apporté quelque chose à ce pays, qui aujourd'hui peut-être ils vont faire abstraction de toute considération politique pour pouvoir intervenir dans le débat, parce qu'ils n'ont plus grand-chose à chercher, à avoir sur le plan matériel. Avec ça, avec cette hauteur d'esprit, peut-être ils pourraient apporter déjà quelque chose. Vous savez comment on est sorti de la grève, de la situation de la grève, de la situation sociopolitique. À l'époque, si on avait déjà à l'époque des gens d'une certaine maturité qui avaient vécu dans les années 70, 80, 90, qui avaient beaucoup, vécu un certain nombre de choses, peut-être en leur qualité de sénateur, ils auraient beaucoup apporté à ce pays. On a manqué aussi à ce rendez-vous-là. Aujourd'hui, c'est Dieu merci, c'est Gabin qui le disait tout à l'heure, il n'est pas trop tard pour recoller les morceaux. Bien sûr, quand vous voyez la nouvelle physionomie ou la physionomie du Sénat, moi je me dis que c'est déjà quelque chose de beau. On a des gens expérimentés, des gens qui ont traversé des temps, des gens qui ont traversé le 20e siècle, le début du 21e siècle. Moi je pense qu'aujourd'hui, ils vont apporter quelque chose au Sénat. C'est beau, même si aujourd'hui, des gens disent que le Sénat est budgétivore. Bon, moi je ne partage pas trop, parce que vous savez, cette manière de voir les choses, parce que vous savez, pendant longtemps, on a dépensé des milliards pour organiser la présidentielle. Ces milliards sont toujours là ou seront toujours là. Bon, on va juste prendre une petite partie pour gérer le Sénat. Donc, on ne va pas aller chercher d'autres montants pour pouvoir gérer le Sénat. Il y a déjà de l'argent disponible. Il y aura toujours de l'argent disponible. On prend juste un peu de ce qu'on utilisait ou dépensait pour la présidentielle et on gère le Sénat. Moi, je dis bonne chance aux sénateurs. Que Dieu les accompagne et vive le Togo.
D'accord. Kofi, c'est vrai que le mercredi soir, nous avons tous ensemble appris la nomination des 20 sénateurs par le chef de l'État, ce qui complète la liste alors de ceux des 41 élus. Et maintenant, le Sénat au complet, il y a la session de droit qui a eu lieu hier. Et d'abord, quand on prend le tableau de ces sénateurs, quelle appréciation vous faites alors de ce tableau?
Lorsque vous parlez de tableau, vous parlez de la composition.
Tout à fait, de la composition.
Pascal, je vais être très très direct ce matin. D'entrée de jeu, je dirais que pour la première fois dans notre pays, nous avons un Sénat qui constitue en fait la chambre haute du Parlement et qui va travailler de concert avec l'Assemblée nationale. C'est une très bonne chose pour nous. Ça nous permettra peut-être d'avancer sur le plan institutionnel. Mais vous savez, je pense que pour un Sénat, qui, à mon humble avis, est comme un Parlement, nous n'avons pas de raison de nommer des gens là-bas. Parce que quel est le rôle du député et quel est le rôle du sénateur? C'est presque la même chose. Le sénateur contribue à quoi? Il contribue au fait que les lois soient votées et aussi au contrôle de l'action gouvernementale. Alors, si une telle personne est nommée, de quelque façon que ce soit, est-ce que cette personne aura la largesse, la facilité là de pouvoir dire au gouvernement, voici ce que vous faites, ce n'est pas bon ou est bon? Non. Je vais demander à ceux-là qui ont travaillé sur la constitution de la 5e République de revoir ce côté-là. Si on ne peut pas nommer des députés, pourquoi est-ce qu'on nomme des sénateurs? Aujourd'hui, nous avons dans cette équipe-là des gens qui ont été nommés, des gens qui font partie du régime en place, des gens qui font partie de l'opposition modérée, si on peut le dire ainsi.
Mais charnière.
Mais en quoi ça dérange? En quoi ça dérange si ils sont nommés? Parce que, oui, sous d'autres cieux, ça se passe. Hein, tout récemment, vous avez vu au Tchad, ils ont été aussi nommés. Maintenant, en quoi ça dérange? Puisque déjà, celui qui nomme a la légitimité.
Écoutez, on ne peut pas nommer des législateurs. Moi, je suis totalement contre ça.
Non, ce n'est pas le Togo qui invente ça. Ceux qui ont inventé la démocratie.
Écoutez, nous avons le Sénat dans un pays comme le Nigeria. Les sénateurs ne sont pas nommés. Ils sont élus. On ne peut pas. Ce n'est pas normal à mes yeux, hein, en tant que citoyen. C'est à titre personnel. Hein, je pense que c'est tout à fait contre le caractère juste des choses qu'un sénateur soit nommé ou qu'un député soit choisi par qui que ce soit. Le député ou le sénateur doit avoir un mandat électif. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, nous acceptons les choses telles qu'elles sont, mais à l'avenir, nous devons corriger ça, parce que ce n'est pas normal.
D'accord. Cyril, oui, aujourd'hui, le Sénat est mis en place. Vous, quelle appréciation vous faites alors de la composition?
Non, je crois qu'une fois encore, le président de la République a exprimé son amour aux femmes, surtout à nos vaillantes mamans. Vous allez voir, sur la liste, on a au moins une dizaine de femmes.
Une fois encore,
nous sommes toujours dans cette politique de la promotion de la gente féminine. C'est ma première analyse. La seconde, quand vous prenez aujourd'hui, comme vient de le dire Firmin, quand vous prenez aujourd'hui la plus grande partie de ceux qui, de ces 20 personnes qui ont été nommées par le chef de l'État, ce sont des gens, entre guillemets, je peux le dire, qui ont leur avenir derrière, parce que ils ont fait leur temps. Quand vous prenez quelqu'un comme
le
doyen d'âge, l'ancien ministre, ouais, Dogo, lui, c'est, Dogo. Je crois que c'est l'ancêtre même, hein. il t'en avait plus de 90 ans déjà, c'est l'ancêtre de tous ces sénateurs, c'est le plus expérimenté même. Quand vous prenez aujourd'hui un certain Koffi Go, ouais. Quand vous prenez des gens comme Tchassona aussi, oui. tout ça là. Je crois que c'est une parité, d'autant plus qu'on a 10 femmes et 10 hommes. Donc, ce que nous allons leur demander aujourd'hui, je crois que l'un des objectifs de ce Sénat là, c'est le contrôle de l'action publique, de l'action gouvernementale, analyser les lois et voter les lois, tout cela. Donc, vraiment, de s'unir rapidement. Élire le président du conseil des ministres, et ce dernier qui va prendre en charge la nomination du président de la République. Je crois que nous sommes rentrés en plein pied dans la 5e République. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont écrire, les gens vont parler, mais il n'y a rien. La 5e République est consommée. Et je crois que, allons-y.
Non, mais la 5e République est consommée, mais il y a des contestations. C'est vrai, il y a des gens quand même qui contestent. Oui, Gabin, il y a le journal Le Canard Indépendant, qui titre sur le sujet « Sénat fort nomme ses opposants dociles, Koffi Go et Madame Dangui, les curiosités ». Est-ce que vous avez aussi la même impression?
Oui. Bon, vous savez, moi, il n'y a rien qui m'a surpris dans ces nominations-là. Hein. Sincèrement, il n'y a rien qui m'a surpris. D'autant plus que ceux-là qui sont des opposants qui ont été nommés, M. Adrien Beleki de la CPP, opposition charnière, comme l'avait dit son mentor, Eden Kojoupé à son âme. Et ensuite, M. Maître Tchassona Traoré, qui a fait des appels de pied quand même au régime en demandant au président de la République de nommer des sénateurs parmi l'opposition. C'est vrai, ce sont les opposants choisis par le régime, et pour moi ça me pose un certain nombre de problèmes. Vous savez, j'aurais aimé que Unir soit représenté majoritairement au sein de ce Sénat-là. Peut-être on peut nommer certaines personnes, certains Togolais lambda ou bien des personnalités de la société civile pour pouvoir implémenter ce Sénat-là et de laisser les opposants faire un travail de terrain. Maintenant, déjà, quand lors de la première session de droit, le doyen d'âge, c'est-à-dire celui-là qui a présidé la session, il commence par parler de la vision éclairée du chef de l'État. Moi, ça me pose un problème. Vous êtes là pour contrôler quelqu'un. Vous n'êtes pas là pour marcher dans la vision de cette personne-là. Donc déjà, ce que le citoyen Koffi vient de dire, c'est bien vrai, puisque nous sommes dans un régime qui est censé contrôler l'action gouvernementale. Donc déjà, quand quelqu'un te nomme, tu n'auras pas cette coudée franche là pour pouvoir le contrôler. C'est vrai que dans les régimes parlementaires purs et durs, tous les élus, ou bien tous les parlementaires ont quand même un mandat électif. Il n'y a personne qui nomme qui que ce soit. Et même celui-là qui préside, c'est-à-dire le Premier ministre, ben, il a un mandat électif. Donc, j'aurais aimé un test, c'est appelé à évoluer. Pour le moment, on accepte comme ça. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on pense réellement à faire évoluer les choses. La composition du Sénat, bon, 10 femmes, c'est-à-dire les nominations, hein, oui, 10 femmes, 10 hommes. Moi, je suis contre cette histoire de parité, de promotion de la gente féminine. Je suis contre. je veux... Les Blancs, là, ils ont déjà mangé, ils sont rassasiés. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pour le moment, nous devons miser sur la compétence. Ce n'est pas parce que quelqu'un est femme. Et on voit ça un peu partout, hein, dans les entreprises. On parle de discrimination positive. Quand c'est à l'encontre de l'homme, on dit que c'est une discrimination positive. Ben, ce n'est pas du tout normal. Aujourd'hui, pratiquement dans le gouvernement, les places ont occupé, les femmes ont occupé beaucoup plus de places que les hommes. Elles sont à des postes stratégiques. Mais quel est le résultat depuis 20 ans qu'on est en train de promouvoir les femmes? Quel est le résultat sur le terrain? Il va falloir faire les évaluations. Je ne refuse pas qu'on nomme une femme quand elle a des compétences. Mais qu'on joue juste sur le fait qu'on est en train de promouvoir la gente féminine pour nommer les femmes à des postes, même si elles ne le méritent pas, sincèrement, moi, je suis contre. Et ce Sénat-là, bon, c'est vrai, c'est déjà implémenté, mais moi, j'ai un problème par rapport à ces opposants-là qui figurent sur la liste hein, des nominés dans ce Sénat-là. Ça, sincèrement, je me pose véritablement la question de savoir s'ils auront les coups de franche. Si au moins on les avait élus, on peut dire que bon, leur campagne a porté fruit, ils ont été choisis par le biais de leur campagne. Mais ici, c'est le chef qui a eu la magnanimité de te nommer. Comment tu peux contrôler quelqu'un qui te nomme? Donc c'est impossible, donc véritablement, c'est compliqué.
Est-ce que vous avez été aussi dérangé, enfin, est-ce que vous avez été surpris, j'allais dire, par la nomination de ces opposants que nous avons tous ensemble vus sur la liste de nomination?
Non, moi, je pense qu'il y a un souci. Bon, les gens contestent la nomination, mais ce n'est pas le Togo qui invente ça. Le Sénat, de par ses origines, ou les sénateurs, de par leur origine, ont toujours été nommés. C'est avec le temps qu'on a ajouté l'élection. Et vous voyez même comment...
Oui, le problème, c'est que, en fait, quand quelqu'un te nomme, tu lui es redevable. Oui, c'est de ça qu'il s'agit.
Oui, au 19e siècle, on nommait les sénateurs. Ceux-là qui nommaient. Et s'il y avait ce devoir de redevabilité...
Mais on est au 21e siècle, affirmé.
Non, attendez. Non, je parle des origines du Sénat. Parce que le Sénat a toujours eu une configuration un peu bizarre. Laissons un peu l'Assemblée nationale. Mais les sénateurs, de par leur origine, parce que c'était des gens expérimentés, qu'on nommait. Pourquoi? En fait, le Sénat, il faut comprendre ce pourquoi on a inventé le Sénat. Le Sénat a été inventé pour corriger les injustices qu'on rencontre au niveau de l'Assemblée nationale. Peut-être pendant les élections législatives, peut-être un parti a pu avoir une majorité écrasante. Maintenant, il faut arriver à compenser, il faut arriver à trouver un juste équilibre. C'est pour ça qu'on a inventé le Sénat. C'est-à-dire, si au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un parti qui a tout raflé, au niveau du Sénat, celui qui va nommer va tenir compte de cette injustice-là pour dire non. Peut-être il y a d'autres considérations, peut-être il y a d'autres compétences, on peut les prendre là. Et maintenant, au niveau du Parlement...
Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la configuration actuelle, on a tenu compte alors de cette peut-être alors de ce que...
Oui, moi, j'étais très heureux quand j'ai vu des opposants nommé. Mais c'est-à-dire, parce qu'on sait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas assez d'opposants. Maintenant, il faut prendre des opposants, peut-être, des gens qui ont d'une manière ou d'une autre à contribuer à la lutte politique ou au développement, peut-être, démocratique de ce pays. Par exemple, quand vous voyez Adrien Beliki, des gens qui ne connaissent pas Adrien Beliki doivent savoir que c'est un journaliste. Première chose. De la deuxième chose, il a beaucoup apporté au monde syndical. Quand les gens parlent de le critique aujourd'hui, c'est que c'est des gens qui ont contesté à un moment le régime sur le droit de travail et qui ont eu un certain nombre, qui ont beaucoup voyagé et qui ont contribué à beaucoup de textes que nous avons aujourd'hui. Quand on voit les Tchassouna Traoré, les gens ne connaissent pas leur histoire. Quand on voit par exemple les Kofigo, les gens disent non, ils doivent au gouvernement. Les Kofigo, mais sur le plan démocratique, ont apporté à ce pays. Des gens là qui ont toujours une certaine expérience, mais peut-être on a besoin d'eux au niveau des débats. Parce que le pays est en train d'évoluer institutionnellement. On a besoin d'eux parce que ce sont eux qui ont ouvert la brèche à la démocratie dans ce pays. Quand on voit par exemple, il y a une dame, Madame Abou Nima, vous l'avez reçue ici.
Effectivement.
Quand les gens parlent de femmes aujourd'hui, c'était des gens comme ça qui organisaient des femmes leaders dans ce pays, qui ont beaucoup apporté à la veuve aux orphelins dans ce pays. Des gens là qui sont là, on va les laisser comme ça, alors qu'ils ont une certaine culture, une certaine expérience. Quand on voit par exemple, j'ai vu le président de l'Union musulmane, c'est Bouraïma...
Innocent.
Des gens, vous cherchez à avoir leur parcours. Donc, c'est des gens qui ont une certaine expérience et peut-être dont on peut toujours s'inspirer pour contribuer à rendre plus institutionnel notre pays. Donc, moi, quand on dit nomination, tout ça, là, bon, on nomme des premiers ministres. Vous imaginez? Dans le fait de nommer les sénateurs, le Togo n'a rien inventé. On nomme les sénateurs pour corriger des injustices, surtout en termes de collectivité territoriale.
D'accord.
Oui, 30 secondes. Vous savez, Fima est en train de parler de correction des injustices au niveau du Sénat. Parce que, bon, peut-être au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un parti qui aura une majorité écrasante. Vous savez, je ne vais pas dire que c'est faux. Je ne vais pas dire que c'est faux, mais il faut voir le rôle du Sénat aujourd'hui. Le Sénat donne juste des avis consultatifs. C'est-à-dire, le Parlement fait des propositions de loi, ou bien soit le gouvernement fait des propositions de loi, le Parlement fait des projets
ou autre.
Et ça remonte au Sénat. Les sénateurs, ils voient s'il faut enlever quelques virgules ou s'il faut enlever un point quelque part. C'est juste un avis consultatif. Le Sénat n'a pas véritablement, en dehors de l'élection du président de la République en concomitance avec le Parlement, ben, le Sénat n'a pas grand rôle à jouer. D'autant, vous allez voir que leur session dans l'année, c'est à peine deux fois qu'ils se réunissent dans l'année. C'est à peine deux fois qu'ils se réunissent dans l'année selon la constitution de la Ve République. Ça veut dire que leur rôle n'est pas trop par rapport au rôle de contrôle de l'action gouvernementale et aussi de veille que joue le Parlement. Donc, à un moment donné, moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. Et par rapport à l'âge, mais le décret qui était sorti permet aux jeunes de 35 ans de participer à ces élections-là ou bien d'être nommés sénateurs. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on a nommé des gens la moyenne d'âge du Sénat aujourd'hui avoisine les 65 ans? Ben, quelqu'un qui a déjà 65 ans, il a ses petits-enfants et autres là, il n'aura pas véritablement de temps pour consulter l'agenda de la République. Donc, à un moment donné, je pense que le chef de l'État aurait bien fait, pour moi, au moins 15 jeunes, il allait les nommer pour apporter de la vigueur dans ce Sénat-là. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et on retrouve juste des gens qui ont lutté pour l'implémentation de cette 5e République. Là, quand nous prenons Innocent Kagbara, c'était un défenseur de la 5e République. Sénat Alipu, même chose. Beleki, même chose. Sincèrement, et Abbas Kaboua, c'est la même chose. Ce sont les défenseurs anarchiques de cette 5e République. Donc, on passe beaucoup plus à des nominations de récompense qu'à des nominations véritablement pour implémenter quelque chose qui va apporter beaucoup plus aux Togolais. Mais on attend, beaucoup de Togolais attendent les résultats de cette 5e République-là et on verra la suite.
D'accord, oui, Kofi, est-ce que vous avez aussi l'impression que Faure Gnassingbé a nommé ses opposants dociles, comme l'écrit le journal Le Canard Indépendant?
Des opposants dociles? Moi, je les appelle des centristes inféodés au régime. Moi, c'est ce que moi je vais les appeler. Écoutez, nous étions tous là quelques semaines plus tôt quand nous avions eu l'histoire du monsieur comment il s'appelle déjà, Maître Chachona Traoré, qui disait littéralement, Miwe Virena Miachamiadou, nommez-nous au Sénat. Et aujourd'hui, nous l'avons vu dans la liste du Sénat. Écoutez, c'est vrai que lorsque vous êtes dans une position de leadership, vous pouvez que travailler avec des gens qui vous comprennent, avec qui vous pouvez vraiment travailler. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ce sont des gens déjà loyaux au régime en place qu'on a vu dans la liste des sénateurs. Et moi, je dirais, celui qui dit que ce sont des opposants dociles a été un peu plus magnanime avec l'usage des mots. Plutôt, ce sont des gens qui... dociles, c'est un peu plus diplomatique. Je dirais.
D'accord. Oui, Cyril, c'est vrai qu'il y a eu les contestations continuées par rapport à cette 5e République. Et il y a le journal Le Canard Indépendant qui est revenu sur ce regroupement qui a été formé tout récemment. Et le journal écrit « Constitution de la 5e République, l'opposition n'a pas déposé les armes de la contestation ». Et c'est par rapport à ce front, bien sûr. Enfin, on ne parle pas de front, on ne parle ni alors de coalition, mais c'est un groupe de travail, c'est ce qu'il est dit. Et avec ce groupe de travail, il y a une charte qui a été signée tout récemment entre les partis politiques et les organisations de la société civile. Et deux partis politiques, l'ANC et le FDR. Alors, finalement, contestation, est-ce que cette contestation va faire tache d'huile?
Non, je crois que je viens de l'annoncer tout de suite, ou je viens de le dire. La Ve République est déjà consommée. Contester quoi? La Ve République, bon, moi je ne comprends pas, parce que d'autant plus que ces gens-là qui font partie de ce regroupement aujourd'hui, ce sont des gens qui ne se respectent pas, parce que...
Non, mais on ne va pas dire ça.
Non,
on ne va pas dire ça, s'il te plaît. Il est très important quand même d'user des mots très courtois.
Ok, là, je retire mes mots.
Tout à fait.
Mais je dirais que ce sont des gens qui ne considèrent pas leur base ou les populations qui les suivent aujourd'hui, parce que je crois qu'ils sont... Ce sont des gens qui sont en train de manipuler les Togolais, si vous le permettez, parce que vous dites aujourd'hui, je prends le président de, comment l'appelle-t-on, de l'ANC qui gère aujourd'hui une grande commune. Hein. Quand vous parlez aujourd'hui de Golf 4, c'est une grande commune. Et je crois qu'il se prépare aujourd'hui pour prendre part aux prochaines élections. Communal bientôt dans quelques mois, et je dirais ces élections là seront organisées avec la cinquième République. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de revendiquer.
Est-ce qu'ils
veulent qu'on revienne encore?
Cyril, là aussi on vous dira que les élections locales étaient là avant que la Ve République n'arrive.
Non, mais c'est dans un cas,
2019 quand même.
Et je sais bien que en 2019 nous sommes dans la quatrième République. On n'est pas encore rentré dans la cinquième République. Mais aujourd'hui, je le dis, je le répète, avec l'avènement du Sénat, l'élection et la nomination des 20 ou les 61 sénateurs qui sont entre guillemets installés. Yeah. Donc je crois qu'on est en plein pied dans la Ve République, et nous allons évoluer avec la Ve République. On ne nous dira pas que les prochaines élections communales seront organisées avec la Ve République. Non, nous allons évoluer avec cette Ve République. Maintenant, ils n'ont qu'à nous dire pourquoi ils ne veulent pas cette Ve République. C'est avec ça le Togolais, lui, va trouver son manger. Ou bien c'est avec la Ve, la Ve République aujourd'hui que les rues de Golf 4 seront dressées. Moi, je crois que ça, c'est un faux problème.
D'accord.
Nous voulons voir ces opposants faire des choses concrète.
D'accord. Ok, oui, mais pour ce qui concerne la contestation au Gabin, oui, c'est le droit même d'ailleurs de ces citoyens qui sont aussi dans l'opposition de contester. Mais est-ce que vous avez l'impression que cette contestation donnera quelque chose?
Ça peut ne pas donner quelque chose, mais ce n'est pas faute de ceux-là qui contestent. Vous savez, moi je le dis toujours, je le répète, nous avons une opposition assez responsable, sincèrement. Nous avons une opposition très responsable où ils ne pensent pas à aller de manière forte. Cette opposition-là lui a subi beaucoup de choses, mais à chaque moment, ils ont accepté la main tendue du gouvernement. Ils ont toujours accepté aller à la table de négociation. Sinon, des situations qui sont arrivées au Togo, sincèrement, entre-temps, dans d'autres pays, d'autres choses se seraient passées. Mais l'opposition togolaise a toujours accepté dialoguer avec le pouvoir. Alors, c'est une question de franchise. Est-ce que pratiquement tous les accords qui ont été négociés avec le pouvoir, est-ce que le pouvoir a accepté de mettre ça en œuvre, de pratiquer cela? C'est aussi ça qu'il faut questionner. Moi, je ne peux pas accuser aujourd'hui M. Jean-Pierre Fabre, Maître Apévon et autres là. Ce sont des gens assez responsables qui se sont associés pour travailler sur un projet. Encore que leur porte est ouverte à ceux-là qui sont sérieux pour pouvoir lutter contre la Ve République. On a vu l'ANC ici, en 2005, qui a marché pendant 5 ans pour contester le pouvoir de M. Forné Asingbé. Donc, on ne peut pas refuser à quelqu'un de contester quelque chose. C'est impossible. Mais il faut remarquer que l'opposition, dans son ensemble, depuis plusieurs, surtout l'opposition radicale, hein, si on peut le dire ainsi, depuis plusieurs années, n'a plus eu véritablement la main libre pour travailler sur le terrain. Les gens me parleront que l'opposition manque de stratégie, mais un parti politique a toujours les mêmes stratégies, c'est-à-dire aller sur le terrain, parler à la population, organiser des marches de protestation, bien de contestation, avec l'encadrement des forces de l'ordre, et Est-ce que ces opposants-là, ces partis de l'opposition-là, ont aujourd'hui la possibilité de circuler sur toute l'étendue du territoire pour travailler? La dernière fois, lors de la réunion, même au siège du CDPA, on a vu ce qui s'est passé avec Guillaume Arustanian. Donc, il faut se poser la question de savoir si nous jouons franc jeu, si nous faisons véritablement la politique de la démocratie au Togo. Donc, moi, les opposants, je dis, je le répète, ce sont des gens assez responsables. Maintenant, il faut faire évoluer le jeu politique au Togo. C'est très important de faire évoluer le jeu politique. Ça en va plutôt de l'honneur du pouvoir. Parce que quand vous-même vous dansez et puis vous vous appréciez, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas du tout bien si les gens applaudissent aujourd'hui que nous allons à la 5e République. Ce ne serait pas bien pour le gouvernement qui ne verra pas des écumes dans cette 5e République-là. Donc pour moi, je pense que l'opposition fait ce qu'il faut pour exister. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la population elle-même a encore envie d'aller aux élections? Il faut voir les élections qu'on a eues depuis 2018 jusqu'à présent. Mais le taux de participation va en décrescendo. C'est que je ne comprends pas, les populations n'adhèrent plus véritablement à des histoires d'élections. Donc, pour finir, les élections municipales, c'est très différent par rapport aux élections sénatoriales, législatives. Encore que ces partis-là n'ont plus boycotté des élections depuis 2018. Ils ont participé aux législatives, ils ont participé aux élections municipales. Et la dernière fois aussi, ils ont encore participé aux législatives, sauf qu'ils ont refusé de siéger parce que, siéger ou pas, le résultat revient au même. Donc, ils ont accepté de laisser leur salaire là, puisque les gens disent qu'ils vont au Parlement pour manger. Ils ont décidé de laisser leur salaire et de venir faire la lutte politique. Donc, les élections municipales, c'est un scrutin uninominal, universel, direct, c'est-à-dire... les maires sont l'émanation même de la population. Ce sont les populations qui votent directement. Ce ne sont pas les conseillers régionaux et les conseillers municipaux qui votent. D'accord. Donc, je pense qu'ils sont très logiques dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est au gouvernement maintenant, au ministère de l'administration territoriale, de les laisser faire leurs actions politiques dans le respect des règles de la République.
D'accord. Oui, mais Firmin, est-ce que pour ce qui concerne la contestation de cette 5e République, on a vu, ce n'est pas ce groupe de travail qui l'a commencé, mais il y a un front même d'ailleurs, Front Tous Pas à Ma Constitution, qui l'a commencé, mais c'est vrai que jusqu'à présent, le résultat n'y est pas. Mais est-ce que vous pensez quand même que déjà avec ce groupe de travail, il y aura résultat?
Mon résultat, bon, je n'y crois pas trop. Parce qu'en réalité, tout d'abord, c'est une question de rapport de force. Il y a quoi sur le terrain? On a aujourd'hui une nouvelle constitution qui a été promulguée, qui est devenue la loi fondamentale de la République. C'est normal que les gens contestent. Je vous dis que la constitution de la 5e République, je vais toujours le dire, la constitution de la 5e République, de la 5e République française est toujours contestée. Ça a été voté en 1958. Mais les gens contestent toujours ça et les gens demandent à ce qu'on révise la Constitution. Et les gens demandent même à ce qu'on aille à une 6e République. Allez demander à Mélenchon. Même la Constitution des États-Unis, Trump la conteste toujours, surtout sur le plan électoral. Il y a des dispositions que Trump trouve toujours vétus et dit il faut qu'on ouvre un peu la porte pour qu'on révise ces tests-là qui ont été votés des années ou des centaines d'années plus. Donc c'est normal que les gens contestent. Mais la deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est que j'ai l'impression, vous avez fait du groupe de travail, ça me surprend. Parce que ce groupe de travail-là, moi je ne pense pas que ce groupe travaille fondamentalement sur la Constitution de la 5e République. J'ai l'impression que les gens n'ont pas lu la Constitution de la 5e République. Ça, je le dis, les gens, les opposants. Parce que la manière dont ils raisonnent, moi j'ai l'impression qu'ils n'ont pas lu la Constitution. Mais qui lisent la Constitution, qui disent exactement ce qu'ils reprochent au test. Moi, quand j'ai lu le. Moi, je reproche, mais ce matin, j'étais passé au bureau, j'ai encore lu les tests, tout ça. Mais ça, je lis un peu l'histoire, la Constitution du monde. Ce régime n'émate rien. Je le dis, par rapport à la Constitution, ceux-là qui l'ont lu. C'est-à-dire, le régime a pris un peu partout, de la Constitution au niveau de la vie institutionnelle de Sivano Solimpio, comment ça se passait. Le régime a pris un peu au niveau de la Grande-Bretagne, le régime a pris au niveau de l'Allemagne, le régime a pris au niveau des années 90, et c'est dans tout ça. Et quand vous voyez encore, c'est-à-dire, on a pris des dispositions au niveau de la Constitution de 92 qu'on a mis dans la Constitution de la 5e République. Là où il y a le changement fondamental et institutionnel, sous la 4e République, il y avait le président qui était le plus puissant. le Premier ministre, lui, il agissait sous l'autorité du président de la République. Mais ici, par exemple, c'est le président qui est le moins puissant et le Premier ministre qui est le président du Conseil est le plus puissant. C'est là où il y a un changement. Et puis ici, cette partie, on a réservé une partie, l'annexe, la déclaration sur l'annexe des droits, au droit de l'homme, droit et devoir du citoyen. Donc, c'est beaucoup plus structuré même. Donc, c'est pour ça que je me dis, il faut qu'ils aillent lire. Mais pour conclure, j'ai suivi le brillant discours de Gabin Adjaro, mais j'ai été très impressionné. Sauf qu'en réalité, je trouve juste qu'en réalité, vous savez, si vous déposez le pouvoir togolais là-bas, devant vous, et vous demandez aux opposants togolais de venir le chercher, personne ne le touchera. Personne. Les opposants togolais, moi je les respecte, mais ils ne sont pas encore prêts pour avoir le pouvoir. Vous leur donnez le pouvoir, ils ne le prendront pas. Parce qu'ils ont eu assez de moyens pour prendre le pouvoir, mais ils n'ont pas pu. Ils ne pourront pas. Le régime sait, Fognesme connaît ses opposants. Ils les connaissent, ils savent bien qu'ils ne pourront pas. Vous leur donnez le pouvoir, ils vont, chacun va fuir.
D'accord. Oui, Kofi, est-ce que ce n'est pas aussi un faux procès que des gens se font à l'opposition quand on dit que oui, l'opposition refuse la 5e République mais veut participer aux élections locales?
Pascal, j'ai dit ici à plusieurs reprises qu'on ne peut pas pleurer sur du lait qui est déjà à terre, du lait déjà versé sur terre. À l'heure actuelle, c'est totalement une perte de temps de pouvoir s'asseoir et s'organiser pour contester la constitution de la 5e République. Il est trop tard pour faire ça. Et moi, je n'ai jamais été d'accord avec l'opposition et aujourd'hui, je vais encore tirer sur elle. Pourquoi ? Parce que nous avons un Sénat qui vient d'être installé. Cette constitution que vous contestez, elle est en train de petit à petit de mettre en place les institutions dont elle a besoin. Et là, nous avons les élections locales dans quelques mois. Si nous avons une opposition sérieuse qui veut vraiment obtenir le pouvoir politique pour en faire, l'élaboration de leur projet de société, je pense que c'est plutôt le moment de se refonder, de se remettre en question pour organiser les prochaines élections locales. Parce que vous ne pouvez pas continuer par pleurer sur ce qui est déjà passé quand d'autres personnes sont en train d'avancer. Les élections locales de juin ou de juillet prochain, le régime a commencé déjà par organiser depuis des mois, ou peut-être depuis des années. L'opposition n'a même pas encore commencé par organiser ces élections-là. Je vous dis ceci, les prochaines élections locales qui viennent, beaucoup de communes vont encore tomber dans le camp du régime. Et tant qu'on va rester là, tant qu'on ne va pas décider de s'asseoir, de se refonder, de se remettre en question, on ne va pas avancer. Il y a des gens dans ce pays qui ont besoin qu'il y ait un renouveau au sommet de l'État pour qu'on puisse avoir une nouvelle manière, excusez-moi, de gérer les choses. Il y a des Togolais qui en ont besoin. Ce n'est pas illégitime qu'un citoyen se dise, bon voilà, je veux du renouveau au sommet de l'État. Ce n'est pas illégitime, c'est normal. Et puis ce n'est pas aussi illégitime qu'un régime se dise, nous sommes là pendant 50 ans, nous sommes là pendant 60 ans, mais on veut rester jusqu'à 100 ans. Ce n'est pas illégitime. C'est le droit du régime de chercher à rester au pouvoir. C'est aussi le droit de l'opposition de chercher à conquérir le pouvoir pour nous offrir du renouveau.
Merci. D'accord. Ok, nous allons en arrêter là. Oui, non, on va en arrêter là pour ce qui concerne le débat, puisqu'il y a des gens, surtout nos auditeurs, qui s'impatientent en ligne et qui veulent participer à ce débat que nous menons ici en studio. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Ce sont les deux numéros sur lesquels ils peuvent nous appeler et participer à ce débat. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
Ça va bien.
Votre nom c'est?
Bertrand.
Pardon?
Bertrand.
Bertrand.
Oui.
Voilà. Bertrand, vous nous appelez de quel quartier? Votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Si vous pouvez diminuer son volume, ce serait très intéressant.
Allô?
Allô, oui, Bertrand.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
Voilà. Des fois, quand j'écoute certains de vos confrères, hein, je tombe des nues. Je me demande s'ils sont au Togo, du moins depuis 2005 jusqu'à tout à l'heure. Là. Et qu'ils ont assisté aux élections de 2005, 2010, 2015, 2020, etc. En 2020, Trump a été aux élections, n'est-ce pas? Il a contesté après que Joe Biden a gagné, n'est-ce pas? Allô?
Je vous écoute, allez-y, Bertrand.
Voilà. Est-ce qu'il a contesté jusqu'à ce que ces éléments sont allés quand même vandaliser Capitole? Est-ce que vous avez vu les gendarmes, les policiers, les militaires aller chez lui casser sa maison, comme on a eu affaire avec M. Agbayomé en 2020? Être opposant au Togo, ce n'est pas facile. Tous ceux qui tuent là-bas, comme quoi, les opposants au Togo. Ils n'ont qu'à deviner aussi opposants, on va voir. En 2010, je ne sais pas quoi, là, on est allé ramasser les trucs là au séminaire, non? Et à l'élection, là, qui avait gagné? Comment est-ce qu'on peut aller à l'élection et puis vous allez, de quel droit, je ne sais pas trop, vous allez vous ramasser les trucs? Tous ceux qui sont à côté de vous là-bas, là, parlent comme s'ils sont revenus, en tout cas, ils sont togolais, mais ils sont revenus en 2025. Ils n'ont rien, ils n'ont assisté à rien depuis 2005.
D'accord, merci beaucoup Bertrand. Merci beaucoup Bertrand. On va donner la parole à d'autres personnes aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont en ligne. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Oui, je vais bien.
Votre nom, c'est?
Mon nom, c'est Komla.
Monsieur Komla, c'est de Tokoin Lycée.
Je vais parler de... du cadre de concertation que les partis de l'opposition et ce que Fili ont mis en place. D'abord, j'ai constaté au niveau de ce regroupement que ces deux entités qui ont des objectifs diamétralement opposés. Les partis politiques veulent aller, c'est-à-dire la fin de leur lutte, c'est de prendre le pouvoir. La société civile est à point. Et comment ces deux entités peuvent être ensemble pour produire quelque chose de potable? Je pense que l'erreur que la société civile a fait en rentrant dans ce mouvement, c'est pour parce qu'ils sont en train de se discréditer. Et la société civile doit jouer le rôle de société civile et laisser les partis politiques jouer leur rôle. Si les partis politiques les entraînent maintenant dans leur sillage, je pense que c'est très dangereux pour la société civile.
D'accord.
Et puis, de deux, je suis assez scandalisé si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui prétendent lutter contre la 5e République qui est déjà mis en place.
D'accord. Merci beaucoup,
c'est
monsieur.
Ils sont en train de faire. Ils n'ont pas les moyens de proposer quelque chose de sérieux au Togolais. Il faut qu'ils se taisent.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Oui, merci, monsieur Komlan. Nous allons donner la parole à une d'autres personnes. Bonjour, Pascal et tout le plateau. Parler d'un régime parlementaire, d'une nouvelle république et réserver toujours un pouvoir discrétionnel au président de l'ancienne république de nommer une partie des sénateurs. Je pense que c'est un cafouillage et le Togo n'a pas avancé. C'est Didier qui nous écoute depuis Vakpocito. Allô?
Oui.
Bonjour. Allô. Oui, bonjour Pélé.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je pense que tout à l'heure, quelqu'un a parlé des élections pour clarifier M. Firmin. Et puis, pensez-vous que l'opposition ne peut arriver au pouvoir? Est-ce que le pouvoir RPT unique peut céder? En 98, est-ce qu'il a vu comment on a proclamé les résultats? En 98, M. Firmin était là.
Est-ce que ce pouvoir-là, la nuit de 5 février 2005, ce qui s'est passé, c'est comme ça? Où est-ce qu'on a écrit ça dans la Constitution, quand le président n'est plus, que quelqu'un quitte sa maison pour devenir président de la République? Où est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Quand nous avons pas, quand nos institutions sont là et que les gens veulent l'écraser, qu'est-ce que vous parlez que l'opposition va faire? L'opposition va faire quoi par rapport à ce geste que fait tout le temps le régime RPTI, du peuple togolais? C'est-à-dire en amenant le peuple à aller à la violence. Est-ce que c'est vraiment... C'est-à-dire, l'opposition togolaise est mature. Il faut comprendre ça. Quand l'opposition togolaise est très mature, le peuple togolais est un peuple mature. Nous ne voulons pas la violence qu'on propose toujours RPTI. C'est ça qu'on va vous dire. Merci.
D'accord, merci Pélé pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour Monsieur Gado.
Bonjour Plateau.
J'espère que vous allez bien. Allez-y.
Ça va. Bon, Monsieur Firmin, est-ce que au Ghana, il y a l'alternance plusieurs fois? Le Togo, jamais, si je peux le dire. Comparer le Ghana et le Togo, notre capitale, ne sont même pas un village du Ghana. Ça, je vous le jure, Monsieur Firmin. Est-ce que les élections sont propres au Togo? Je me demande si mon ambassadeur des États-Unis ne peut pas demander de recompter la voix, Monsieur Firmin. Vous voulez rentrer au gouvernement, allez-y. Mais ne parlez pas comme ça. Je vous dis une chose, vous comparez souvent le Togo et l'Europe. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que nous, ici, là, on peut nommer un opposant à la tête de la CENI? Ils n'ont pas le temps, on va voir. Ce n'est pas possible. Vous savez, je vous dis une chose. Les sénateurs, là, moi, je voudrais préférer nommer les gens comme Barthé, les Kofi Diondo, les Dramani, tous ceux qui n'ont pas besoin de l'argent du gouvernement pour manger. Aller aider bénévolement le tas. Là, c'est bon. Mais les gens comme Barthé, ils ont besoin du salaire pour vivre. Non! Demandez aux gens qui n'ont plus besoin de l'argent pour aller aider l'État. Non, marché. Tout est sale, tout est brûlé. Et vous parlez comme ça? Monsieur, bonne journée.
Allez, bonne journée à toi aussi, Monsieur Gado. Merci pour votre intervention. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Nyamavo, oui.
Allez-y.
Oui, je salue Firmin. Quand il dit que les constitutions sont contestables, je le disais hier, la Constitution de 1992 avait du fond dans l'aile, devant unir, RPT unir, disons. Le RPT unir l'a contesté vigoureusement, hein, en la surpatriant plusieurs fois. La dernière fois, la CDAO a dit qu'il faut que ça respecte les normes de la CDAO. Ils sont revenus, mais ils ne sont pas d'accord. Ils sont passés à la 5e République. Après le père de la nation, mais c'est parce que c'est le fils de la nation qui est venu, bien sûr, le Saint-Esprit de la nation. Je vous dis que cette constitution est l'État. Elle ne va pas aller loin. Donc le peuple va contester ça. Donc c'est une stratégie que l'opposition est en train de dessiner. Je prie que le peuple togolais puisse comprendre, parce que vous avez vu les dernières élections, le peuple n'est pas sorti. Quand les intérêts disent que ça va donner quoi? Amour pour lui, le Guyane. On nous a tapé, les poudous. Nous sommes là, non. Il vous dit, oh, là, c'est lui qui m'entend. C'est ce qu'on entend. Et vous dites que l'opposition va faire quoi devant ça, là, M. Firmin? Et pitié des Togolais. Quand même.
D'accord, merci, Monsieur Nyamavo. Salut le plateau, opposition farouche, physique et naturelle de chaque président ou de chaque régime. C'est la faim et le chômage et l'opposition politique. Ce sont les opposants à leur manière. Le vin est déjà tiré. Les boycotteurs n'auront que leurs yeux pour pleurer. Allons-y. Seul Dieu qui a le dernier mot. Et c'est Lazare Adrala Maïto de Doulassame. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô.
Bonjour.
Bonjour, Monsieur Folie de Décon.
Ah, Monsieur Folie, allez-y.
Comment vous allez?
Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Oui, allez-y.
Je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Je voudrais simplement dire à mes frères qui sont avec vous là-bas qu'il n'y a pas la démocratie au Togo. Hein. Il n'y a pas la démocratie. Parce qu'en démocratie, on ne peut pas accepter certains partis politiques faire leur mouvement, leur réunion partout, mais les autres sont bloqués et on dit que on doit avancer comme ça, c'est impossible. Je me pose la question, il y a des gens qui ont fait ça, qui croyaient que c'était ça normalement. Après tout, ils ont eu des revers de la main. Hein. Donc, mes frères qui sont avec vous ne disent pas que, tout comme ils ne sont pas au Togo, ils sont partis ailleurs faire leur formation de journalisme et revenir au Togo pour faire leur truc réel de vie au Togo. Non. Même si moi je rassemble deux, trois personnes dans ma maison maintenant pour parler, on peut venir m'attaquer. Ça, c'est la politique. Ça ne se passe nulle part dans le monde entier. C'est seulement tout le monde voit ça. Donc, c'est pas normal.
Mais monsieur Folli, vous exprimez quand même, monsieur, une radio de grande écoute. Et là, vous n'êtes pas attaqué.
Non, je dis, si je rassemble une, trois personnes pour parler en politique.
Ah, d'accord.
Vous voyez? Alors là, c'est pas la démocratie. Pourquoi d'autres auront les moyens de circuler sur toute l'étendue du territoire? Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Laissez tout le monde tenter leur chance. C'est ça qui donne une vraie démocratie. D'accord. Donc c'est ça quoi.
Merci monsieur Folli pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô? 90-86-35-35-91-36-63-115. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est oui. Dodi Darabé.
Ah, Dodi, depuis Darabé. Allez-y.
Je vous remercie beaucoup pour ce matin. Notre confrère qui voulait insulter les étudiants, là, il n'a qu'à savoir qu'ils sont ses papas. Hein.
Monsieur Dodi.
Oui.
Oui, j'aime bien vous le dire, c'est que moi, mon rôle, c'est que je veux vous écouter aussi sur votre avis, hein, pour se prononcer sur le sujet.
Je vous remercie. Bon, le Sénat qu'on nous propose aujourd'hui, là, c'est que moi, je me demande à M. Firmin de me retourner l'attention. Est-ce que ça va aider pour que le développement arrive dans toutes les localités du Togo? Les sénateurs élus ou nommés, est-ce qu'ils vont amener le développement pour notre pays, le Togo? Moi, si vous parlez ici, si tu dépasses à ta famille pour aller chez vous, là, c'est la croix et la bannière avant d'arriver au village. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, il y a quoi manger. Mais on vote chaque année. Tous ces votes-là, ça nous donne quoi? On nous propose ce qu'on ne peut pas avaler. D'avaler ça.
Allô,
c'est pas bon.
Allô, Dédi.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin?
Moi?
Oui, oui.
Si je vous dis ça, vous allez rire. C'est plus que j'ai mangé.
Est-ce que vous êtes sérieux là, Dodi? Disons la vérité.
Je fais la photo pour vous envoyer même le reste sur le table.
D'accord, merci beaucoup, Dodi. Merci pour votre intervention. Bonjour Pascal, bonjour le plateau. Une partie de l'opposition est en train de tomber encore dans les mêmes travers comme avant, au moment où le pouvoir en place est en train alors de se projeter dans le futur. Ses opposants, eux, sont toujours dans le passé. Ils ne sont pas encore dans le présent. Ils n'ont qu'à tirer leçon des erreurs passées. Je suis très d'accord avec monsieur Kofi sur ce point. Merci et bonne journée. C'est Cyril qui nous écoute depuis le Canada. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Allô? Votre radio siffle à côté de vous, monsieur. Allô? Allô, bonjour. Décidément, Kiki, on va se passer alors de cet auditeur. On peut recevoir notre dernier auditeur. Je pense que nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission 90-86-35-35-91-36-63-75. Voilà, il se signale. Allô?
Oui.
Bonjour.
Oui, c'est Pélé qui revient.
Ah, Pélé.
Oui,
allez-y.
C'est par rapport à ce Sénat qui a été installé pour finaliser ou bien officialiser le régime qu'on appelle souvent RPT UNIR. C'est-à-dire, il y a les gens du RPT qui sont au Sénat et UNIR qui sont à l'Assemblée. Et maintenant, la question que le peuple togolais, la grande majorité qui s'accroupit dans la misère aussi pose, est-ce que ça va servir à quoi? Ça peut nous donner à manger. Le Ghana n'a pas le Sénat, le Bénin n'a pas le Sénat, le Burkina n'en a pas, je ne sais pas. Si ça peut aider la population à survivre, à vivre dans l'inquiétude, je pense qu'on vient de prolonger un an encore au nord pour la sécurisation du nouveau territoire.
L'état d'urgence, si vous voulez
aider. Et si on transforme ce Sénat et remplacer ça au CPC et mettre M. Tshiasona comme président? Merci.
Merci beaucoup, Pélé. Pélé, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. On lit rapidement cette réaction. Bonjour, Pascal et les panélistes sur le plateau. Continuer à contester la 5e République repose d'abord sur le bon sens, parallélisme des formes pour passer de la 4e à la 5e République. De quoi le pouvoir a peur s'il est convaincu du bien fondé de cette révision constitutionnelle pour éviter la voie référendaire au cas où cette 5e République ne porte pas alors ses fruits. Les contestataires auront gain de cause. C'est Kokou qui nous écoute d'Avepozo. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Rapidement, Gabin Adjaro, 30 secondes.
Oui, moi je ne vais pas aborder par rapport aux appels des auditeurs. Demain, c'est le 8 mars, Journée internationale de la femme. Aux associations féminines et de défense des droits de la jeune fille, je les invite à aller beaucoup plus à l'intérieur du pays pour voir réellement ce que les jeunes enfants, les jeunes filles vivent dans ces localités. Je ne vais pas leur donner des détails, qu'elles y aillent elles-mêmes et puis elles vont constater réellement ce qu'il y a sur le terrain et puis apporter les aides qu'il faut à ces jeunes filles-là qui vont devenir demain des dames, des premières ministres et autres. Là.
D'accord, merci Gabin. Oui, Firmin.
Après avoir mûrement réfléchi, je suis parvenu à ce constat. L'opposition joue un double rôle dans ce pays. Le premier rôle, c'est qu'elle s'autodétruit facilement et continue de le faire. Le deuxième rôle, c'est que nous avons une opposition qui contribue fortement à l'enracinement de ce régime. Ceux qui contestent aujourd'hui la Constitution, la plupart savent qu'ils ont toujours contribué à l'enracinement de ce régime et continuent de le faire. Je me demande si le peuple togolais même veut aider cette opposition ou veut aider le régime. Mais d'après les élections ou d'après les résultats que nous avons toujours, le peuple togolais vaut toujours massivement pour ce régime qui est en place. Donc ceux qui ont appelé, moi je leur dis merci d'avoir appelé, c'est la démocratie. Toutes les critiques, moi je les apprécie avec un grand sourire.
D'accord, merci. Oui, Kofi.
Pascal, les défenseurs de ce régime ont toujours l'habitude de dire que s'ils sont toujours en place, c'est parce que les Togolais ont à un moment donné commencé par apprécier le travail qu'ils sont en train de faire et que les Togolais les aiment réellement. Moi je vais dire ceci, je vais appeler au bon sens, à la bonne foi du régime. La 5e République qu'ils nous proposent, ils nous ont dit que ça permettrait à plus de liberté, à plus d'ouverture. Si ce régime est sûr de lui, qu'il ouvre le jeu, qu'il permette aux opposants d'exercer en toute légalité, d'avoir la liberté de faire leur travail d'opposant. Et on verra si dans quelques années, si dans les prochaines élections ou pas, dans quelques années, s'ils resteront toujours au pouvoir, qu'ils ouvrent le jeu, qu'ils laissent les opposants exercer leur travail d'opposant.
D'accord. Merci, Kofi. Oui, Cyril.
Je veux vous dire merci de m'avoir invité sur ce plateau, partager ce moment avec vous. Et en plus, je voulais revenir sur un sujet, peut-être ça vous a échappé. C'est nous tous qui avons lu sur les réseaux sociaux un fait relatif à un incident d'un policier qui est en détachement du côté de Sanville, et dans de Aplao, je crois, qui est mort. Et paraît-il, ce que nous lisons, c'est comme si... pour le deuil, l'enterrement, tout ça là, la direction générale de la police aurait remis une somme de 15 000 francs. Je crois que l'information n'est pas exacte.
Et vous êtes allé à l'information?
Nous, on est allé à l'information. L'information n'est pas exacte. Et cette personne aussi n'est pas le premier policier qui est mort, n'est pas aussi la première personne que la direction générale de la police nationale est en train d'enterrer. Les 15 000 francs là, c'est juste pour la confession de sa tenue, d'autant plus que le monsieur est musulman, et de façon précise, il faudrait qu'on arrive à gérer rapidement la tenue pour l'enterrement. Il y a même des corbillards, il y a un corbillard qui a été mis à la disposition de la famille. Et je crois que d'autres mesures sont prises pour l'enterrement de ce valeureux Togolais qui est parti très tôt dans un accident de circulation. Donc, juste dire qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui attention sur les réseaux
les
sociaux.
Tout
ce que nous disons ne sont pas exacts.
Je pense qu'en tant que journaliste, ça devient défi pour nous, surtout de chercher la véracité de l'information, puisque se passe tout ce qui circule sur les réseaux sociaux et qui est vérité. Donc, merci à vous, Gabin Adjaro.
Merci de m'avoir invité.
Merci d'être passé. Firmin Tekou Agbo, merci d'être passé. Kofi Annani, merci d'être passé dans cette émission. Cyril Sablassou, merci d'être passé dans cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutia était à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et vous passez un bon week-end. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.